Hugues Barrière, bonjour.
Bonjour.
Hugues Barrière, depuis plusieurs années, vous avez fait des recherches sur un personnage haut en couleur, vraiment haut en couleur, qui a des racines ici, et qui a une carrière assez mouvementée, on va en parler. Et ce livre, en deux tomes, s'appelle
Mielvac, tout simplement, du nom du personnage, Mielvac.
Mielvac, ça nous est quelque chose dans la légende locale, mais on ne savait pas les détails. Vous avez fait des recherches pendant des années, alors ?
J'ai fait des recherches pendant 4 ans. En tout, 3 ans pour le premier tome, et puis encore une année, le temps d'écrire le second tome. D'accord. Et effectivement, c'est un personnage assez magique qui a été oublié, peut-être parce que c'était un imposteur, il faut le dire, et qu'il avait beaucoup triché et arnaqué les Corréziens, qui, je pense, ont voulu se venger en l'oubliant.
Précisons quand même que si les Corréziens voulaient se venger, il avait élu quand même, parce qu'il est monté à haut niveau de la députation. Mais voilà, une histoire rocambolesque, on peut dire rocambolesque.
Ah, exactement, oui, exactement.
Et donc, Mielvac, déjà, ce nom, excusez-moi, mais ça a une consonance un peu comme mille vaches, mais pas les vaches, mille vasques, mille étangs, mille points d'eau, mille sources, c'est ça?
Oui, exactement. Je pense que le nom vient de là, même si la famille de Mielvac est plutôt originaire du sud de la Corrèze, hein, du côté d'Argentin, son père est de Saint-Martial-en-Trègues. Voilà. Donc, voilà. Et sa mère était de Messac. Et Mielvac, lui, est né ici à Messac.
Ah, alors, en quelle année ?
Il est né en 1854, en juillet 54.
Justement, tout début du Second Empire, après le coup d'État de Napoléon III.
Exactement. Il était d'une famille d'ailleurs tout à fait conservatrice et tout à fait bonapartiste. Voilà. Avec un père huissier et une mère institutrice. Donc, on va dire la petite bourgeoisie, voilà, messacoise.
Donc, il passe son enfance, son adolescence sous le Second Empire. Et crac arrive, bien sûr, la défaite de Sedan, l'instauration compliquée de la Troisième République. C'est là, il est jeune adolescent. Il va commencer à chercher à voler de ses propres ailes, en montant à Paris, comme on disait à l'époque.
Exactement. À 18 ans, il monte à Paris, comme dans la chanson d'Aznavour, bien décidé à empoigner la vie, le bagage mince, parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'études.
Et surveillant tout en haut de l'affiche.
Exactement. Et il voit son nom tout en haut de l'affiche. Ouais. Et à partir de là, bon, il fait 2 ans de droit, et puis il rentre par piston. Ça existait déjà à l'époque. Le Plassou corrézien existait déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Hein.
Par piston à l'époque, maintenant, ça n'existe plus, voyons.
Non, absolument. Maintenant, ça serait c'est impossible. Mais à l'époque, ça existe bien. Et donc, il obtient un poste à la questure de l'Assemblée nationale. Donc, il est employé administratif à l'Assemblée nationale la journée.
Là, il rentre dans l'antre du pouvoir, au cœur des relations, des atmosphères, des bras longs, tout ce qu'on devine, quoi.
Exactement, et c'est ce qui lui fait envie, certainement. Ah, oui. Il fréquente un monde dont il n'est pas, lui qui vient de notre beau village, et il a l'accent d'ici, et certainement se sent-il un tout petit peu diminué, peut-être un peu méprisé, peut-être fait-il un complexe, et c'est de là, je pense, que vient son désir de rentrer dans la grande société parisienne et de faire partie de ces puissants qu'il côtoie toute la journée.
Avec son accent de la Corrèze, qui détonne dans le milieu bourgeois, huppé, aristocratique, parfois fou aristocrate, certes aussi, mais tout de suite, il est catalogué, comme on dit.
Oui, et alors il a un avantage quand même, c'est qu'il est très beau. Il plaît aux dames, et voilà, c'est un beau garçon, un beau jeune homme, et il n'a pas froid aux yeux, et il n'a pas beaucoup de scrupules. Et donc, comme c'est pas par le travail qu'il va percer, parce que clairement, ça n'a pas été un bon collégien, ça n'a pas été un bon étudiant, et clairement, c'est pas par le travail à la questure de l'Assemblée nationale avec cette hiérarchie administrative qui est pesante, c'est pas par là qu'il va briller. Et donc, il décide de mener une vie beaucoup plus expéditive et de fréquenter à Paris toute une clique assez interlope de gens peu recommandables, des arnaqueurs, des escrocs, et qui ont tous le point commun de changer leur identité et de se faire passer pour des aristocrates pour mieux arnaquer autour d'eux. Et Mielvac n'échappe pas à la règle, et comme les copains, il change son identité, et il a 20, 25 ans, et à ce moment-là, le Pierre-Antoine Maximin Mielvac, qui est né à Messac, se transforme en vicomte Michel Mielvac de la cour de Garbeuf.
On s'en fait des particules. Hein. Au moment de la Révolution, justement, on les cachait, les particules, de peur d'être raccourcis, n'est-ce pas ? Mais là, on les rajoute allègrement à ce moment de la Restauration, enfin, enfin la Restauration, sous Napoléon III du moins. Après, il y aura la Troisième République balbutiante, c'est vrai. Donc un personnage qui, en redingote, en chapeau de forme, distingué en apparence, qui va donc naviguer dans cette atmosphère bourgeoise, aristocratique et riche de l'époque. Hein. Oui. La bourgeoisie était riche, hein. La bourgeoisie.
Oui, et alors, comme lui est pauvre, parce qu'il mène cette vie de vicomte sans l'être vraiment, mais ça lui coûte cher, il est déjà très endetté, il a déjà des retenues sur salaire à l'Assemblée nationale, et il faut impérativement qu'il trouve de l'argent. Alors il vit d'arnaque à la petite semaine, il vit beaucoup par les femmes qu'il entretiennent, mais il est vraiment en recherche du gros coup. Voilà. D'accord. Et ce gros coup va venir en 1887, il a 33 ans.
On va en parler. Un article dans le journal La Montagne, toute une page d'ailleurs, était consacrée à votre recherche, à vos livres, dont le deuxième tome sur Mielvac. Et on voit en particulier, un cheminement incroyable d'un personnage qui pourrait être un personnage de film, de roman en tout cas. Hein, tout à fait.
Hein. C'est une histoire absolument romanesque. Et des fois, la vérité, la réalité dépasse la fiction. C'est une histoire, si on avait voulu l'écrire, on l'aurait trouvé certainement improbable ou exagéré. Et en fait, c'est la stricte vérité. Alors, rien n'a été inventé.
D'accord. La réalité est parfois plus forte que la fiction.
Oui. En même temps, Mielvac adore les lettres, les romans, la littérature, la poésie. Il a lu Balzac. Mm-hmm. Et il est influencé très certainement par le personnage de
Rastignac. Rastignac.
Exactement. Rubin Pré Rastignac. C'est des personnages qui ont été créés 15, 20 ans avant. Voilà. Mm-hmm. Et donc, lui, les a lus et se dit, ma foi, tout est possible. Ouais. Et donc, il n'y a pas que ce personnage qui l'a influencé. Certainement, peut-être que Bellamy de Maupassant aussi. Ouais, et d'autres. Mm-hmm. Cyrano de Bergerac l'a certainement inspiré aussi.
Un personnage différent, quand même.
Personnage différent, mais Cyrano avait ce don de se faire des ennemis. Et Mielvac a eu ce don toute sa vie de se faire des ennemis. Ah, et de se battre en duel.
Aussi. Ah, c'est
parce que Mielvac aimait le combat physique. Mielvac aimait l'épée, aimait les duels. Il s'est battu en duel dans sa vie.
Donc c'est une sorte de Rastignac qui, au moment de l'enterrement du père Goriot, d'en haut voyant Paris, disait Paris à nous deux. Et il a conquis Paris pareil, comme un Rastignac, peut-on dire.
Exactement. Et puis il avait des complices. Donc toute une clique de complices, des faux princes, des faux ducs, des faux barons et lui faux vicomtes qui se donnaient le change entre eux. C'est-à-dire comme ils étaient une bande, les gens leur faisaient d'autant plus confiance qu'on disait mais vous connaissez le vicomte Mielvac de la Cour et quand c'est quelqu'un d'autre qui le présente, on se méfie pas. Et donc ça, les arnaques en bande, ils en ont fait beaucoup jusqu'au gros coup dont on va parler.
Alors précisons avant d'en parler parce que c'est tellement passionnant. Le premier tome a abordé la partie début de sa vie. Voilà. Et le deuxième tome, alors, comment ça se passe dans vos recherches, premièrement, et dans vos publications?
Alors, le premier tome, en fait, et pourquoi j'ai fait trois tomes, c'est parce qu'il y a quand même, parce qu'il y en aura un troisième qui va paraître l'année prochaine. D'accord. Mais déjà, pourquoi les deux premiers? Parce qu'il y a deux histoires complètement différentes. La première histoire, c'est toute la jeunesse de Mielvac, qui arrive à Paris, et qui va enlever en plein Paris une riche héritière, et ça c'est un fait divers. Donc c'est vraiment un livre qui parle d'un fait divers et qui a été traité dans la presse parisienne comme un fait divers.
C'est rocambolesque encore. C'est un peu l'enlèvement, non pas au sérail, mais presque.
Et c'est pas loin d'être ça. Il voit une riche héritière, il apprend dans les journaux l'existence d'une très riche héritière qui est très malheureuse, et il se dit, elle est pour moi. Elle a besoin d'un homme, elle a besoin d'amour, et moi j'ai besoin d'argent. Oui. Et donc il décide, avec ses complices, en leur promettant une part sur le butin, de l'enlever le plus tôt possible, en tout cas de la séduire.
Oui. Et comme on lui ferme... De la compromettre par la même.
De la compromettre et de la séduire. Et en fait, comme on lui ferme très vite la porte au nez et qu'il comprend que la poule aux œufs d'or va lui échapper, à ce moment-là, avec ses complices, il décide de l'enlever.
Le kidnapper, pratiquement.
Exactement, en calèche. Alors, elle a déjà été un peu séduite, donc... Elle est très surprise quand elle est enlevée en plein Paris, comme ça, à Avenue Foch, qui s'appelle à l'époque l'avenue du Bois de Boulogne, au pied de l'Arc de Triomphe. Mais elle est consentante, finalement. Parce qu'elle l'a déjà vu une ou deux fois, elle le trouve beau, elle l'appelle mon cher Michel, et ma foi, elle s'attend pas à être enlevée, ça c'est sûr. Mais elle est surprise. Mais elle est finalement consentante, et c'est ce qui facilite leur fuite, qui va avoir lieu à travers, d'abord la France, et ensuite une bonne partie de l'Europe. Voilà.
Ah, pour fuir les parents, outragés par...
Mercedes de Campos, puisque tel était son nom, n'avait plus ses parents, mais elle avait un frère à Paris, une sœur, et elle avait surtout un avocat qui veillait très jalousement et sur elle et sur sa fortune, un avocat qui était supposé être un homme de confiance, et en fait, un Catalan beaucoup plus âgé qu'elle, qui était certainement amoureux et qui devait certainement vouloir la garder pour lui.
Voilà. Et on va faire une illustration musicale, puisque nous allons parler ensuite de sa carrière politique, et ici, dans la région du sud de la Corrèze en particulier, avec une musique, une chanson de l'époque, de cette approche de ce qu'on allait appeler la belle époque. Enfin, la belle époque, pas pour tout le monde, hein, attention. Hein.
Exactement. Ouais.
Froufrou, par exemple. Bien, après cet intermède musical enchanteur, hein, la musicalité, les paroles, l'ambiance et la voix. Hein. Bien, retrouvons-nous toujours à la même époque, mais avec ce rocambole qui ne porte pas son nom, originaire de la Corrèze, qui va faire ensuite une belle carrière politique. Enfin, belle pour lui, pas forcément pour ses électeurs. À savoir que ce Mielvac, Charles Mielvac, qui s'affublait, allez-y, de tant de prénoms et de particules, allez-y, comment déjà ?
Donc il se faisait appeler le vicomte Michel Mielvac de la cour de Garbeuf.
Plus les prénoms.
Alors, ses prénoms d'état civil et de baptême étaient Pierre-Antoine-Maximin, mais il se faisait plus appeler que Michel.
Ah, bon, d'accord. Alors donc, il a enlevé sa belle, surtout d'ailleurs pour la dot, je suppose.
Pour son argent, exactement, pour sa fortune. Mercedes de Campos avait à l'époque 4 ou 5 millions de francs qu'elle avait hérité de ses parents. Aujourd'hui, on peut...
4 ou 5 millions de francs hors de l'époque.
Oui, c'est-à-dire...
C'est une fortune.
Aujourd'hui, on peut dire, je sais pas, 20, 50 millions. Après, on peut convertir de façon différente, mais moi, je tablerais facilement sur 50 millions d'euros.
C'est énorme.
C'est pas si mal. Hein.
Avec ça, on peut voir l'avenir en rose.
Exactement. Et donc, du coup, une fois qu'il l'a enlevé, ils partent en cavale, parce qu'ils sont poursuivis par la justice française, la police française, par la presse. Parce que quand il fait cet enlèvement, il faut savoir que la presse française et la presse du monde entier en parlent. J'ai retrouvé des journaux australiens qui en parlent, des journaux d'Afrique du Nord.
C'est
évidemment.
Une super vedette, notre Corrèzien.
Mais exactement. Ce kidnapping fait la une du Figaro pendant 11 jours d'affilée. Et après, est relégué aux pages intérieures et on continue à en parler et à suivre la cavale des deux amoureux jusqu'au moment où on découvre qu'elle est consentante.
Ah, bon.
Et forcément, quand elle est consentante, la justice finit par se retirer.
D'accord.
Et il n'y a plus que l'homme de confiance de cet Espagnol, Rubao Donadeu, un Espagnol, qui continue à la poursuivre parce que lui ne veut pas laisser échapper le magot. Et on a cette course-poursuite à travers l'Europe qui se termine en Angleterre, qui passe par la Belgique et qui se termine en Angleterre, où finalement, Mielvac réussit à épouser son Espagnol.
Mais c'est incroyable, même dans des films de cap et d'épée, dans des romans de cap et d'épée, de Dumas, de Zévaco, de bien d'autres, on n'imagine pas de personnages aussi truculents. La réalité dépasse largement la fiction.
Mais exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une réalité. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de retranscrire tout ça dans ces biographies. C'est parce que c'est tellement extraordinaire qu'il est même difficile de comprendre et de concevoir que ça ait pu être oublié.
C'est vrai.
Parce qu'il était très très célèbre à son époque. Tous les journaux parlaient de lui. C'était une célébrité, un people de son temps.
Voilà. S'il y avait eu Internet et les réseaux sociaux, alors ça aurait été planétaire. Ça l'était déjà, puisqu'on parlait même dans les journaux australiens, juste avant, en 1900. Hein.
Oui. Ah bah là, on est en 1887.
Ah ben voilà.
Et donc, alors, la presse est très riche à l'époque, on est en plein développement industriel, mais quand même, les journaux du monde entier, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, on en retrouve, dans tout le monde occidental, on en retrouve.
D'accord. Donc, ce Michel Mielvac de ceci, de cela, etc., rentre en Corrèze, avec la dot richissime de son épouse enlevée et épousée. Il l'a épousée pour la dot, hein, c'est une évidence absolue. Et les femmes n'ont plus pouvoir sur leur propre dot à cette époque-là. C'était les hommes qui mettaient la main basse sur l'argent de leur épouse.
C'est beaucoup plus presque complexe que ça. Ça va vous montrer à quel point cet homme était un imposteur et un escroc. C'est que Mercedes de Campos ne s'est mariée avec Mielvac qu'avec un contrat de mariage en séparation de biens. Donc techniquement, elle avait la main sur tout son argent. Mais même une fois mariée, il a réussi à lui extorquer tout ce dont il avait besoin, et pour acheter le château de Sabot à Bénin, qu'il a restauré à grands frais pour en faire une demeure somptueuse.
Ce grand château à Bénin, c'était le sien.
Exactement.
Qu'il a acheté.
Exactement. Il l'a acheté, il l'a fait acheter par un notaire de Messac, qui était son ami, et il l'a restauré à grands frais. Il y a eu des travaux pendant de longs mois, avec des entrepreneurs qui ont même essayé de l'arnaquer un petit peu, mais il leur a expliqué que c'était pas à l'arnaqueur qu'on essayait de faire des arnaques et que c'était pas lui qu'on allait piéger. Et puis, il a utilisé toute la fortune de sa femme pour démarrer cette carrière politique, voilà, qui était un peu son rêve de revanche sociale. Aussi. Une fois revenu au pays, il voulait être prophète en son pays.
Voilà. Alors donc, ça y est maintenant, la fortune faite, le château et les châtelains avec des particules à rallonge. Pratiquement, il a gagné sur toute la ligne. Mais c'est pas suffisant. Maintenant, il faut monter pour se venger un peu aussi de la caste supérieure qu'il avait un peu snobé, peut-être à Paris. Il veut se lancer dans la politique. Et alors là, fort du personnage que vous décrivez, ça a dû être assez sanglant ou pittoresque ou picaresque.
Exactement. En fait, il avait trois armes pour lui. La première était la séduction. Il était châtelain, il se disait vicomte, et il y a beaucoup de gens que ça impressionnait et qui, à l'époque, étaient sans doute prêts à voter pour lui et à l'élire. Bon. Il avait une deuxième arme qui était beaucoup moins jolie, qui était la corruption. Et comme il était très riche, il a commencé à arroser partout, d'abord dans le canton de Bénin, parce qu'il d'abord il a voulu se faire élire conseiller général de Bénin pour commencer.
C'était toléré à l'époque de la corruption, c'est interdit maintenant.
C'est interdit maintenant, c'était aussi interdit à l'époque, mais après elle peut avoir plusieurs visages. Par exemple, il ouvrait les cafés et il permettait aux gens qui se déclaraient ses amis de boire à volonté dans les cafés. Exactement. Pour peu qu'on les accompagne, même titubant, le dimanche matin pour aller mettre le bon bulletin de vote dans l'urne.
D'accord. Voilà. Il est aussi à castagner l'adversaire pendant les marchés à Messac ou ailleurs.
Alors, c'est la troisième arme de Mielvac sur les marchés et pas que sur les marchés. Après la séduction et la corruption, il y avait l'intimidation.
Voilà.
Il avait avec lui une bande qu'on appelait la bande des tricards. Et déjà, quand il avait enlevé Mercedes de Campos, il avait des complices. Là aussi, il avait des complices, des hommes de main qui payaient, dirigés par un pechamiel de la région de Bénin qu'on appelait Barbe de Fer, qui était un géant avec une barbe énorme et avec une voix de stentor, et qui avait, comme on dit dans les tontons flingueurs, un pouvoir tranquillisant.
C'est vrai, Tonton Flinguer, dans les dialogues d'Audiard, on imagine le personnage d'une sorte de Gargantua, de Goliath.
Exactement, exactement. Et la bande des Tricards était appelée comme cela parce qu'ils avaient des tricks. Et donc, ils se battaient à coups de barre, soit à coups de tricks, soit à coups de barre, soit à coups de pierre.
Pour convaincre les récalcitrants.
Alors, pour convaincre les récalcitrants, pour surtout briser dans l'œuf toute tentative de réunion politique de ses adversaires. C'est-à-dire que dès que les adversaires politiques venaient faire un meeting, une réunion électorale, il perturbait tout pour qu'il n'y ait pas de discours. Et puis, il avait une autre arme d'intimidation qui était puissante. Comme il était riche, il a créé un journal, Mielvac. Il a créé un journal en 1893, en commençant sa carrière politique, qui s'appelait L'Avenir républicain de Brive, qui a changé de nom ensuite, qui s'appelait L'Avenir républicain de la Corrèze, dont il se servait pour insulter la terre entière, pour diffamer ses adversaires. Et alors, aujourd'hui, vous prenez la première ligne du journal et ça fait l'objet d'un procès. Alors, je sais que les journaux ne faisaient que 4 pages à l'époque, avec la dernière page consacrée à la publicité, mais sur 3 pages, c'était 3 pages d'insultes, de racontards, de diffamation, de dénigrement, à caractère politique ou personnel.
Ouais, et la presse écrite était toute puissante à l'époque. Il n'y avait pas encore, bien sûr, les réseaux sociaux, Internet, il n'y avait pas encore la télé, il n'y avait pas encore même la radio. Il n'y avait que la presse hyper florissante du 19e siècle, le siècle de la révolution industrielle.
Exactement. Et la Corrèze n'était pas pauvre en journaux. La Corrèze avait de très nombreux journaux, et il était de coutume, quand il y avait des campagnes électorales, que des journaux se créent pour les campagnes. Alors bien sûr, il disait qu'ils se créaient, qu'ils allaient durer, mais il y a des journaux qui ont duré 3 semaines, 1 mois, 3 mois, uniquement pour des campagnes. Et la presse, effectivement, était toute puissante à l'époque.
Alors, Hugues Barrière, on imagine l'énorme travail à la Bibliothèque nationale de France, en Corrèze aussi, je suppose, bien sûr, consulter un par un tous les journaux, nombreux, jour par jour, pour trouver ici ou là, un peu comme une perle rare, un article consacré à Michel Mielvac, c'est ça ?
Exactement.
Alors, ça a demandé des années.
Alors, ça m'a demandé, pour sortir le tome 1, 3 ans de travail où, en fait, j'ai découvert toute l'histoire. Alors, la première partie a été plus simple, parce que la première partie se passe à Paris, et ce sont des journaux nationaux qui ont couvert l'enlèvement de Mercedes de Campos. Et donc, ces journaux nationaux, on les trouve à la BNF, bien sûr, à Paris, mais sur Gallica, on les trouve en ligne. Donc, avec un mot-clé, on peut retrouver pas mal d'articles.
C'est vrai, le fait de numériser des archives formidables, maintenant, mais pas tous, bien sûr.
Alors, ça, c'est pour le premier tome. En ce qui concerne la carrière politique de Mielvac, et donc le deuxième tome, qui est une histoire vraiment différente, on n'est plus dans le fait divers, on est dans le livre presque politique de l'époque et historique. Là, je suis allé aux archives de Tulle, où malheureusement, la presse n'est pas encore numérisée, et effectivement, là, j'ai lu, page après page, tous les journaux de l'époque, Le Corrézien, Le Conciliateur, La République, La Croix de la Corrèze, alors qu'on trouve aux archives municipales de Brive. Il n'y a qu'un journal qu'on ne trouve pas à Tulle, malheureusement, c'est le journal qui a été créé par Mielvac, L'Avenir républicain de Brive.
Pourquoi?
Peut-être parce que certains ont essayé d'effacer les traces, peut-être, et le seul exemplaire qui reste aujourd'hui des archives de ce journal, qui a duré 2 ans et demi, 3 ans, sont à la BNF. Et quand j'y suis allé à Paris, donc, et quand j'y suis allé pour consulter ces archives, on m'a expliqué que le papier était cassant et brûlé quand les archives n'étaient pas consultables. Vous imaginez le drame que c'était pour pouvoir avoir toute l'information nécessaire à l'écriture de cette biographie. Et donc, je suis allé pleurer auprès de la BNF qui, en 3 mois, ce qui est un record absolu, a restauré et numérisé toutes les archives. Et aujourd'hui, tout le monde peut aller sur Gallica lire les archives intégrales de L'Avenir républicain de Brive, le journal de Mielvac.
Grâce à votre insistance, à votre persévérance.
Grâce à la BNF surtout. Grâce à la BNF surtout, qui a fait un travail
remarquable. Vous n'avez jamais fait, grâce à votre demande.
Je pense que ces archives n'étaient jamais sorties de leur placard depuis le jour où elles ont été archivées à la fin du 19e siècle.
Alors, comme c'était le journal de Michel Mielvac, de ceci, de cela, avec 3 particules, je ne sais plus, et qu'il faisait des articles, il écrivait lui-même.
Alors, quelques-uns qu'il écrivait lui-même parce qu'il aimait bien écrire, mais il a eu une bande de complices autour de lui qui ont écrit pour lui.
Et souvent des articles diffamatoires ou vitrioles, ça doit être coloré.
Exactement. Ah non, c'est même à la limite de l'insupportable. C'est-à-dire que vous lisez 1 ou 2 articles, vous dites « Ah là là, il y va pas de ma morte ». Quand vous lisez ça sur des pages entières, à un moment donné, on n'en peut plus. Il faut savoir que Mielvac était malheureusement, comme une bonne moitié de la France à l'époque, assez antisémite, et que son journal était parsemé de commentaires qui n'étaient pas toujours des plus reluisants. Déjà, ses méthodes en elles-mêmes étaient quand même des méthodes de gougnafier, mais en plus, avec ça, c'était quand même pas très reluisant.
Oui, on était en pleine affaire Dreyfus, où la France était coupée en deux.
Alors, c'est juste avant l'affaire Dreyfus qui commence.
Déjà, l'ambiance était là.
Alors, mais c'est bien que vous en parliez, parce que j'ai découvert, en faisant cette enquête, qu'il y a eu une autre affaire Dreyfus. Une première affaire Dreyfus, parce que l'affaire Dreyfus que tout le monde connaît, c'est la seconde affaire Dreyfus. Et le capitaine Dreyfus, qui a été injustement accusé, a beaucoup souffert de cette première affaire Dreyfus.
Il ne concernait pas non plus, c'était l'homonyme.
C'était un homonyme, mais cet homonyme qui s'appelait Camille Dreyfus, lui, était une fripouille, était coupable.
Ah, déjà, ça portait mauvais présage sur le nom.
Exactement. Et quand l'affaire Dreyfus qu'on connaît, a commencé dans les journaux en 1895, les journaux titraient une nouvelle affaire Dreyfus, en faisant référence à l'ancienne, ce qui a porté préjudice au capitaine Dreyfus, parce qu'il a, eu cette présomption de culpabilité, parce que le précédent, qui était vraiment une fripouille, Camille Dreyfus était un ancien député qui avait fait deux mandats, qui était patron de journal, et qui faisait chanter énormément de gens en France en disant « j'ai des informations en étant rédacteur en chef de mon journal », si vous ne me payez pas, je les publie dans mon journal.
D'accord.
Et il a fait chanter Mielvac, entre autres.
On a lu bien sûr tous l'histoire du procès incroyable, à plusieurs rebondissements d'ailleurs, hein, de l'affaire Dreyfus, réhabilité de façon spectaculaire tant d'années, après des années, sur l'île du Diable à Cayenne, hein, dans le bagne, sur les tropiques, presque sur l'équateur même. Mais je veux dire, on ne parle jamais justement de ce mélange d'homonymie porteur malsain, disons, on n'en parle jamais.
Ben non, je l'ai découvert aussi, je l'ignorais, et je l'ai découvert. Alors après, l'affaire Dreyfus a duré effectivement très très longtemps. Camille Dreyfus, lui, a été condamné immédiatement à de la prison, à une lourde peine, enfin une lourde amende financière. Mais clairement, ça a porté préjudice au capitaine Dreyfus. Et c'est une affaire qui a fait la une des journaux.
D'accord. Et avec des noms très célèbres à l'époque, Maurras, déjà, je crois, Drummond, Léon Daudet.
La bande des complices, aujourd'hui, a été oubliée dans cette affaire Dreyfus. Il y avait un monsieur qui s'appelait Portalis, Édouard Portalis, qui était le patron d'un journal qui s'appelait Le 19e siècle. Ils étaient sept en tout à avoir été jugés et condamnés. Certains se sont exilés volontairement. Et c'était une vraie bande d'escrocs qui profitaient de leur connaissance du milieu politique pour avoir été anciens députés, etc. Et de leur position de journaliste et de patron de presse pour faire chanter des gens.
Donc une véritable mafia. Maintenant, ça n'existe plus de nos jours. C'est pas possible, ça. C'était inimaginable, voyons. Alors, Mielvac, revenant à sa carrière proprement politique, il a été quoi exactement, politiquement, en Corrèze?
Alors, sur le plan politique, au fond de lui, Mielvac est un conservateur. Sauf que on est en Troisième République et qu'il n'y a plus de place ni au bonapartisme ni au conservatisme. Donc Mielvac se déclare évidemment républicain pour percer.
Opportuniste.
Voilà. Alors effectivement, au départ, il est opportuniste parce que les Républicains, il y a un parti qui est le parti des opportunistes qui vote.
Ah, il s'appelait comme ça carrément même. Donc il cachait pas leur jeu.
Non. Il y avait un parti qui s'appelait opportuniste et qui, pourquoi? Parce que c'était des centristes en fait. C'était des Républicains centristes qui votaient de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite, toujours avec des Républicains.
Au mieux disant.
Exactement.
Selon les portefeuilles, les ministères en particulier.
Exactement. C'était des centristes qui étaient opportunistes, c'est-à-dire qui votaient d'un côté ou de l'autre selon les opportunités.
Ça n'a pas beaucoup changé, il me semble, un siècle après.
Voilà, ça n'a pas beaucoup changé. Et puis très vite, quand toute la France est devenue républicaine et que vraiment le conservatisme n'existait plus nulle part, à ce moment-là, Mielvac a dû choisir parce qu'il a eu des ennemis républicains. Et comme Mielvac n'a jamais travaillé en politique, il n'a fait que se faire élire, il a dû à un moment donné trouver un espace politique que personne n'allait lui piquer, et donc il s'est dit socialiste. Voilà.
Ah, après socialiste.
Sa devise en Corrèze, c'était paysan, mes frères, ouvriers, mes amis, des gens qui l'ont cru, qui lui ont fait confiance, et que pour qui, bien sûr, il n'a jamais rien fait.
C'était une sorte de, comment dire, de pastiche du vrai Jaurès, vraiment lui socialiste, sortant de la haute bourgeoisie, lui, et intellectuel de haut niveau.
Oui, Mielvac n'avait que les mots. Mielvac était un escroc et un arnaqueur, et donc lui, ce qu'il voulait, c'était se faire élire, quelle que soit la méthode.
Il a fait combien de mandats, alors, en vérité, avec ses méthodes à poigne?
Alors, il n'a fait en tout qu'un seul mandat, parce que quand on ne fait rien, il est difficile de se faire réélire, mais il a quand même été élu deux fois dans chaque mandat. C'est-à-dire qu'il a d'abord été conseiller général sur le canton de Bénat, en avril 1893. Quatre mois plus tard, il est élu député de la Corrèze sur la circonscription de Brive-Sud. Et en 95, deux ans plus tard, il sera élu maire de Messac. Et il sera invalidé dans ses trois mandats.
Invalidé sur quel prétexte? Tricherie au vote?
Voilà. Alors, pour ce qui concerne le Conseil général et l'Assemblée nationale, il est invalidé pour corruption, diffamation, fraude électorale, tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire payer à boire, avoir sa bande de malfrats qui cassait la gueule à tout le monde, etc., etc.
Incroyable.
Donc il est invalidé. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il est réélu derrière, à la fois au Conseil général et à l'Assemblée nationale.
Ça fait penser à certains qui ont été pris la main dans le sac officiellement. Ils sont quand même réélus par leur population vers là-haut, vers Paris, Leval, je ne sais plus quoi. Enfin bon.
On peut y trouver
des correspondances.
On peut y trouver des correspondances et des points de comparaison. Mais pour l'époque, il faut savoir que Mielvac a été un champion, mais c'est pas tout à fait inédit. Déjà en Corrèze, on avait l'habitude de quelques élections qui se passaient comme ça.
Ah, quand même. À une époque aussi où le département de la Corrèze, peut-être un peu plus peuplé à l'époque, parce que c'était essentiellement agricole, maintenant on est 240, 250 000 habitants seulement. Mais il y avait combien de circonscriptions? Maintenant, on avait 3 députés, maintenant on n'a plus que 2, avec ce qui est proposé là pour le changement, dans un an ou deux, peut-être qu'il ne sera plus qu'un seul, enfin les prochaines élections législatives. Mais à l'époque, c'était combien de députés pour la Corrèze?
Alors à l'époque, il y avait 5 circonscriptions.
5?
Il y avait Ussel, Tulle-Nord, Tulle-Sud, Brive-Nord et Brive-Sud. Et Mielvac était sur Brive-Sud, lui. D'accord. Et il y avait 29 cantons.
Oui, il faut pas oublier qu'à l'époque, on se déplaçait à cheval ou en calèche au mieux. Hein.
C'est ça aussi. Exactement. Donc les distances étaient plus grandes. Voilà. Malgré l'existence du train, mais avec son relief vallonné, la Corrèze n'était pas encore tout à fait bien équipée au niveau ferroviaire.
Oui, il a fallu attendre le transcorrésien inauguré par Poincaré un peu avant la guerre 14-18.
Et puis, il y avait pas mal de concurrence au niveau des élus corréziens qui, pour que le train passe par leur village... Oui. Accepter ou préférer des petites Michelines avec des écartements de voie qui n'étaient pas la même et qui n'étaient pas compatibles avec les lignes nationales. Et donc, du coup, il y avait des trains qui passaient dans leur village, mais du coup, ils ne desservaient rien d'autre que leur village et ils ne permettaient pas de relier les grandes villes.
Ça fait penser aussi au TACO, bon, un peu plus tardif, hein, Mielvac, sa carrière était finie depuis longtemps, qui faisait la jonction entre la ligne de Brive, enfin, à Turenne, Gare, Collonges, Messac, Le Pêcher, etc. Et bien sûr, au Beaulieu, sur Dordogne, où chacun, Saint-Basile-Messac, même, il fallait suivre les méandres, bon, mais desservir chacun.
Alors, pour revenir à Mielvac, ce qui est étonnant, c'est que, bien qu'invalidé, et avec les raisons de son invalidation étalées dans la presse par tous ses adversaires, il est quand même réélu dans les deux élections immédiatement.
C'est incroyable, ce personnage, incroyable. Il faudrait, je sais pas, moi, on devrait en faire un film.
Alors, le point d'orgue, oui, effectivement, ça serait, il y a des personnages secondaires, il y a des intrigues à rebondissement qui permettraient d'en faire un film ou une série. Ça, beaucoup de gens me le disent. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il est élu maire de Messac en 1895, alors qu'il n'est pas sur les listes électorales. Ce qui est quand même une prouesse absolument extraordinaire. Et donc, le préfet de la Corrèze lui écrit en disant, cher monsieur, j'ai un peu de mal à valider votre élection comme maire de Messac parce que vous n'étiez pas éligible. Et donc Mielvac lui répond une lettre absolument dantesque, c'est vraiment extraordinaire, en lui disant, écoutez, faites ce que vous voulez, je m'en fiche, j'ai été élu conseiller général, invalidé et réélu, député, j'ai été élu député, invalidé et réélu, je me fais pas de soucis, je serai réélu maire de Messac. Et il signe Mielvac, maire de Messac, bientôt invalidé et bientôt réélu.
Et ça a marché là encore.
Ça a marché un an plus tard.
Incroyable.
Le maire de Messac. Voilà, le Conseil d'État, ça monte jusqu'au Conseil d'État, valide sa non-élection en 1895. En 1896, il est réélu légitimement.
Ah ben, vous nous mettez en sacré appétit. Alors, le premier tome, le deuxième tome qui s'appelle exactement le premier et le second.
Alors, le premier, c'est Mielvac, imposteur romantique de la Troisième République, parce que, en raison de cet enlèvement. Le deuxième tome, c'est Mielvac, imposteur politique de la Troisième République, et c'est toute sa carrière en Corrèze, sa carrière politique en Corrèze.
Qui est disponible maintenant.
Exactement, les deux sont disponibles aujourd'hui. Le troisième tome parlera de sa déchéance et de sa ruine, parce que comme dans toute grande histoire...
Il y a une morale.
Il y a une morale, on se croirait en pleine tragédie grecque, et effectivement, il y aura une ruine de Mielvac, et elle sera une chute, et elle sera vertigineuse.
Oh Là, vous nous mettez en appétit, donc Hugues Barrière, avec cette histoire d'un personnage, mais même dans les romans les plus célèbres qui ont passé les siècles, je n'ai pas le souvenir d'aussi marquant, truculent, et j'ai l'impression que c'est un personnage bien plus truculent que tous les rocamboles, même que des personnages de Balzac, c'est du Rastignac avec Vautrin, c'est-à-dire, Mamie les dépasse largement, Balzac est dépassé tout simplement.
Je ne sais pas si Balzac est dépassé, mais la réalité est telle qu'elle est. Et donc la réalité n'a pas de filtre. Un auteur, quand il écrit une œuvre de fiction, s'inspire de la réalité, mais a toujours d'abord un objectif personnel dans ce qu'il souhaite raconter, et puis il peut avoir des filtres personnels. La réalité n'a pas de filtre, et un imposteur, un escroc, a encore moins de filtres.
Et rappelons que tout ce que vous racontez dans votre deux tomes sur Michel Mielvac, c'est sur archives, témoignages écrits, procès, journaux et compagnie. Et on va attendre avec une infinie impatience le troisième tome pour avoir quelle sera la morale finale. On peut dire en quelle année il est mort ?
Il est mort en 1912, à Enghien, il avait 58 ans, Enghien-les-Bains en région parisienne, où il se cachait manifestement, il devait être poursuivi par quelques créanciers. D'ailleurs, dans son acte de décès, l'adresse qui est indiquée est une fausse adresse.
En plus, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, à la dernière minute.
Exactement.
Le faussaire en chef, génial, d'une certaine façon. C'est bizarre, mais il y a un peu d'admiration quand même dans notre interrogation. On va se quitter donc Hugues Barrière avec une musique, une chanson assez typique de cette époque-là, d'avoir la guerre 14-18, ce qu'on disait la belle époque. Pas pour les petites gens, les agriculteurs, les domestiques en ville, et les maçons de la Creuse ou d'ailleurs... mais pour la bourgeoisie rentière. Et la 14-18 qui va venir va faire plonger tout le monde, et tout le monde remis presque au niveau d'une certaine façon. Ça, c'est une autre histoire qu'on racontera avec vous aussi dans d'autres contextes. Merci infiniment et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Radio Vicomté, 103.9 FM stéréo.